Bonjour à chacun et à chacune. C'est bon, le dégel c'est bon aussi. Hein. On a vécu quelques jours quand même, je sais pas vous, mais ça contracte un peu le corps quand même. Hein. Et on apprécie quand ça s'adoucit. Nous avons vécu une semaine assez riche, hein, depuis dimanche dernier, on a eu la venue de Pascal et Fabienne, et puis nous avions cette semaine de jeûne et de prière. Je ne sais pas pourquoi, c'est vrai que c'est particulier cette semaine, nous nous sommes retrouvés 16, 17 chaque jour, du lundi au vendredi, de 12h à 14h, mais je sais aussi que d'autres qui ne pouvaient être présents physiquement étaient vraiment présents en esprit, se retrouvant des fois seuls sur le lieu de travail, mais d'autres à deux ou à trois. Et ça, c'est important. Nous avions cette semaine de jeûne et de prière par rapport à ce que le Seigneur a mis sur notre cœur pour cette année. Hein, défrichez-vous un champ nouveau. Hein, je rappelle ce verset, semé selon la justice, récoltez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau, il est temps de chercher l'Éternel. Nous avons, je crois, vécu cette semaine dans l'esprit d'Ésaïe 58, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. » Ces choses-là se sont produites, il y a eu des temps de partage, des guérisons du cœur, des larmes ont été recueillies aussi, par notre Seigneur. Nous devons réfléchir, je crois d'ailleurs, à peut-être un deuxième temps, parce que peut-être au niveau horaire, il y a le midi, mais peut-être on pourrait avoir un temps aussi le soir. Bon, je livre ça comme ça, il faut qu'on y réfléchisse, pour qu'un plus grand nombre puisse se retrouver et vivre ensemble. Je crois qu'il y a une dimension qui est importante de vivre les choses aussi ensemble. Et puis nous avons clos cette semaine avec vendredi soir, une soirée de louange et d'adoration. Si nous comprenons bien que le jeûne et la prière n'a pas pour but de mortifier nos âmes, mais de nous rapprocher du Père pour que nos oreilles entendent et que nos yeux voient, alors on peut vraiment dire que ce temps de louange a bien contribué à cela. Et au cours de cette réunion, vraiment, c'était très fort, à tel point qu'on était conduits à partager le repas du Seigneur ensemble. Moi, j'étais touché, j'ai l'impression qu'il y avait une foule. Oh, nous étions, je ne sais pas, nous étions peut-être 60, 70, je ne sais pas. Mais je ne sais pas, j'ai senti à cet appel, vraiment, on s'est rassemblés. Et c'était très fort, à tel point que je pensais qu'il allait manquer de vin, nos sœurs. Yannick et Myriam ont préparé, et j'avais peur qu'on manque. Folie, on ne manque jamais avec le Seigneur. C'était un moment très fort. Et au cours de cette réunion, des chants m'ont rappelé mon parcours avec le Seigneur depuis le jour où il a saisi et bouleversé ma vie. Je pense à ce chant, je veux demeurer dans ta grâce et Seigneur, ce dont j'ai besoin, que l'esprit de vérité, des chants qui ont bouleversé vraiment ma vie et d'autres chants qui m'ont touché par rapport à ce qui est dans la vie de beaucoup. De beaucoup de chrétiens, individuellement ou collectivement, il y a des choses qui restent dans les cœurs. Et ces chants me parlaient beaucoup sur tant de souffrances qui restent. Des fois, au début de la vie, avec le Seigneur, et c'est un peu normal, on en reparlera, mais aussi des fois pour des personnes qui, depuis des années, sont avec le Seigneur. Et ça, c'est vraiment un fardeau qui pesait sur mon cœur. Écoutez, j'ai perçu clairement à un moment que je devais apporter mon témoignage à l'Église. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ça m'est apparu vraiment clairement pendant ce temps de louange. Et je vais donc le faire. Parce que je crois que cela peut être un encouragement pour plusieurs. À travers ça, j'ai le désir de vous encourager à chercher l'Éternel à travers sa parole, avec humilité mais confiance, car c'est ce que le Seigneur désire. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et ce matin, l'introduction de Jean-François, en disant, mais C'est un miracle qu'on soit là. M'a aidé. Et ces textes, c'est impossible à l'homme, mais c'est possible à Dieu. C'est impossible à l'homme, mais c'est possible à Dieu. Alors je suis encouragé, parce que c'était après j'ai eu des luttes, c'était pas facile. Et je vais commencer par lire un texte dans 2 Corinthiens 4, aussi un texte qui est pour moi extrêmement précieux. Je vais lire en fait de... C'est toujours pareil, quand on donne une référence, c'est pas tout à fait ça. Alors... Je vais lire à partir 2 Corinthiens 3, verset 16. Et puis, je vais voir où je vais m'arrêter. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point de conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous reconnaissons, recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, Satan, le Dieu de ce siècle, afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs, et je crois que plusieurs peuvent le dire, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et j'aime beaucoup ce passage. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse parfois, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Moi aussi j'ai cru, et c'est pourquoi je vais parler. J'ai vraiment envie de partager ça. Alors, oui, c'est un si grand miracle. On a chanté des chants merveilleux, hein, un si grand miracle, mon péché s'efface par ta rédemption, ce qui est impossible aux hommes, l'est possible à Dieu. Je vous donne mon témoignage. Ce sera peut-être un petit peu long, mais j'avais besoin de vous dire un certain nombre de choses. Je ne sais pas absolument tout pourquoi j'ai à vous le donner aujourd'hui, mais je vous le donne. Donc je suis né en 1955 à Chartres, en Eure-et-Loir, dans une famille pratiquant la religion catholique avec assiduité. Oui, cela dépassait une simple tradition. Je me souviens de mon père discutant avec un oncle régulièrement pour lui démontrer que Dieu existait. Ça fait sourire, mais oui. Le dernier des 8 enfants, dont un est décédé à 2 ans par une rougeole mal soignée faute de moyens, j'ai grandi entouré de parents qui nous élèvent correctement. La scolarité se déroule plutôt bien, voire très bien, ce qui n'empêche pas des angoisses ou anxiétés dès mon jeune âge. Je peux dire que j'ai toujours su et cru que Dieu existait. Mais je m'intéressais dans le même temps à toutes les théories sur l'origine du monde, théorie de l'évolution, de la relativité, j'étais plutôt un scientifique, un curieux. Les angoisses dans ma vie, telles que je peux le voir aujourd'hui, avaient 2 sources principales. Mes parents se disputaient parfois, on n'était jamais sûr de l'humeur de mon père quand il rentrait du travail, et souvent c'est vrai que dans mon lit je me demandais s'ils seraient toujours ensemble. Et puis par ailleurs, je vivais une assez forte, dès ma jeunesse, une assez forte culpabilité par rapport à des fautes et des péchés réels, certains, je le vois aujourd'hui, ou supposés. J'avais la crainte de Dieu, un peu la crainte du jugement, ce qui ne m'empêchait pas de recommencer. Très tôt, je suis attiré par les choses religieuses. Je fais la messe dans ma chambre, j'imite le prêtre, les enseignements du catéchisme et j'essaie de toutes mes forces de me conformer aux exigences énoncées, d'être gentil, de plaire à ceux qui m'enseignent. Et quand c'est comme ça, il y a un retour, des compliments qui amènent à me conformer au modèle qui semble approuvé. Ça paraît plutôt pas mal, sauf qu'il y a là la crainte de l'homme en fait. Je me confesse régulièrement, ce qui m'amène pour quelques heures à mieux être. Mais l'exigence d'être bien comme il faut demeure et un processus se met en place. C'est jamais assez bien. Et finalement, je crois que l'orgueil s'installe aussi. À 9 ans, sans que personne ne m'y ait poussé, je rentre au petit séminaire avec le désir de devenir prêtre. Je suis un bon élément, bien docile en apparence, mais le fond de culpabilité ne me quitte pas. Des pensées de jalousie, des pensées et des actes impurs, même confessés, reviennent et alourdissent ma vie. Et puis, je réalise que je ne pourrai pas rester célibataire. En tout cas, je le vois ainsi à l'époque. Et je décide à 13 ans de frapper à la porte du Père supérieur. Vous savez, dans les séminaires, il y a un Père supérieur. Peut-être, vous avez vu certains films, je peux vous dire que c'est pas rien, quoi. Il a fallu que je réunisse toutes mes forces pour aller parler à cette autorité, surtout pour lui dire que je quitte cette voie-là. Pour autant, c'était plus possible pour moi. Je crois aujourd'hui que Dieu m'a gardé, mais c'était vraiment difficile parce que j'avais vraiment... J'ai eu du mal à l'admettre, mais je crois que j'avais un cœur pour Dieu, mais dans une mauvaise voie finalement. Pour autant, je reste très engagé dans la vie paroissiale et dans de nombreuses œuvres. Je suis un enfant de cœur, il y a des communions, des fois 3 séries de communions, je fais les 3 séries de communions, les 3 vêpres, enfin bon, à fond quoi le gars. Je désire désormais aussi changer le monde. En tout cas, je me passionne pour les discussions autour de sujets. Plus tard, je ne vais pas insister, mais je serai engagé dans la vie syndicale, dans la politique, changer le monde. À 16 ans, je passe mon baccalauréat, mes professeurs me voient déjà entrer aux grandes écoles, et moi, je meurs de trouille, des nœuds au ventre, omnibulé par la crainte de ne pas être à la hauteur. Au niveau familial, on me permet de faire des études, 2 années d'études après le bac, et après, c'est à moi de me débrouiller. J'ai trop peur, je renonce et entre dans la vie professionnelle pour faire de l'informatique. Je pense qu'il y a plusieurs choses que j'ai vécues à cette époque-là. À 9 ans, entrant au collège, ma mère m'a présenté au directeur d'un collège privé. Elle a sûrement dit un certain nombre de choses, mais ce que j'ai retenu de cet entretien, c'est qu'elle a dit au directeur, « Celui-là, il faudra le mater, il est orgueilleux. » À la fois, c'était sans doute vrai, mais c'est des paroles qui m'ont pas fait du bien, c'est sûr. Et vous savez, quand c'est comme ça, on décide de prouver qu'on ne sera pas orgueilleux, qu'on pouvait réussir sans être orgueilleux. Bon, j'ai réussi à prouver pas grand-chose, peut-être une réussite matérielle, mais pour l'orgueil, c'était pas gagné. Puis un autre événement que je cite, j'avais témoigné aux jeunes, c'était pas prévu, mais j'avais 15 ans, et dans une discussion familiale, tout à fait banale, à la fin d'un repas, une histoire tout à fait matérielle, il y avait un tuyau qui avait été déplacé dans la cour. Je ne sais pas pourquoi la discussion s'engage et mon père demande qui a déplacé le tuyau. Bon, je ne sais pas. Et puis il se tourne vers moi, mais c'est toi qui as dit. Je dis non, c'est pas moi. Et alors que j'étais quand même un garçon plutôt craintif, hein, vraiment il y avait une peur hein, chez moi de. Et là, j'allais dire je tiens tête, mais vraiment, ce n'est pas moi qui avais déplacé le tuyau, quoi. Et à un moment, ça tourne vinaigre et mon père se tourne vers ma mère en disant je ne suis pas surpris, de toute façon, ça se confirme, il n'est pas de moi. Et ça, vous voyez, c'est des choses. Je dis ça et je crois que ces choses peuvent toucher des cœurs dans les vies. Il y a des paroles comme ça, des fois, qui qui peuvent, on se rend pas compte sur le moment, abîmer des vies. Je ne dis pas ça, frères et sœurs, pour vous amener à une espèce d'apitoiement, vous montrer là ce qu'est le péché finalement. Hein. Et puis sur les études, c'était un milieu social, il ne fallait pas apparaître, il ne faut pas s'élever, c'est sûr, il ne faut pas s'élever, c'est bien. Mais vous voyez, le problème de l'humilité religieuse, amener par exemple mes parents à dire, il ne faut pas que tu fasses des études parce que sinon ça va t'éloigner de tes frères. Vous voyez déjà toute la différence avec Dieu qui donne des talents, pas pour s'enorgueillir, quand on a compris que ça venait de lui. Voilà donc, me voilà donc à 16 ans dans la vie professionnelle. Alors, ça marche pas mal. Le Seigneur est bon, vous savez. Bon, c'était mon prof de maths. J'étais un matheux, un passionné de maths. J'en faisais le dimanche. Je calculais des choses en physique. Le dimanche, j'aimais bien. Et mon prof, quand il a vu que je ne ferais pas les études supérieures, ne m'a pas abandonné. C'était un prêtre, un passionné, il avait construit son avion lui-même. Il ne m'a pas abandonné. Il m'a trouvé un boulot. Et avant d'avoir passé mon bac, j'avais déjà un boulot. Il avait vu le directeur du personnel de la boîte, où je suis resté finalement 35 ans. Il avait dit, ce petit garçon, ça va aller, il veut faire de l'informatique. Et j'ai été pris comme ça. Seigneur, veille sur nous bien avant qu'on le rencontre. Donc à 20 ans, je me marie une première fois, me confiant à Dieu et à la Vierge Marie, que je prie régulièrement à travers le chapelet. J'étais quelqu'un qui avait une piété, mais évidemment pas Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Vous voyez ces phrases, après ma conversion, tout ça est revenu. Hein. 4 enfants naissent, entre l'âge de 22 ans et 30 ans, à 30 ans, voilà, père de famille de 4 enfants. La vie professionnelle et sociale est un succès aux yeux du monde. Hein. Mais l'angoisse demeure. La vie se déroule. L'impureté et l'infidélité sont dans ma vie. La vie professionnelle trépidante d'un jeune cadre dynamique, on ne reste pas. Hein. On reste des fois cadre, on reste des fois dynamique, jeune moins. Mais cette vie-là me grise, le succès venant, et alors on se croit tout permis. L'orgueil précède la chute, nous dit Proverbe, et j'aurais aussi vous lire dans Proverbe. Proverbe 6. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne. Pardon ? Verset 12. Pardon. Proverbe 6, verset 12. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur, il médite le mal en tout temps. Il excite les querelles. Aussi, sa ruine arrivera-t-elle subitement ? Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Ne croyez pas, je lis ces versets, parce que quand je me suis converti, ces versets m'ont parlé. La parole de Dieu, elle s'accomplit, vous savez. Et puis, Proverbe 7, je ne vais pas le lire tout entier, Proverbe 7, mais parle de cet homme qui est attiré par une prostituée, finalement. Et à un moment, il est dit, elle le séduisit à force de paroles, au verset 21, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts, il descend vers les demeures de la mort. Je n'en fais pas une règle, mais la réussite professionnelle, l'argent et le pouvoir conduisent, le monde le sait ça, à se croire tout permis. À 45 ans, après tout un tas de parcours d'essais, j'entreprends une psychanalyse après bien d'autres choses, des pèlerinages à Lourdes à 3 reprises, ne loupant aucune des processions et des chemins de croix à genoux, gravissant les stations je pensais à la suite du Christ. Des formations pour rechercher l'accomplissement de soi, le bien-être, l'acupuncture, et tandis que je décide de faire un bilan de compétences dans un cabinet indépendant, le consultant, après entretien et tests de tout genre, me déclare que j'ai tout réussi. Vie familiale, professionnelle, familiale. Il me dit, vous êtes rendu au stade de l'accomplissement de soi et me propose d'intégrer une loge chez les francs-maçons. Il me précise qu'ils sont tolérants et que je peux venir avec la Bible, le Coran ou la Torah. Et à ce moment-là, quelque chose en moi refuse cela. Il y a quelque chose en moi qui dit, s'il y a une vérité, elle est unique. Et c'est ainsi que je vais reprendre une Bible qu'un prêtre m'avait offert à l'âge de 11 ans et que j'avais lu intégralement. Ça, c'est surprenant. J'avais lu intégralement, et je peux vous le dire, intégralement, y compris le livre des nombres, où il y a quand même une succession de noms qui n'est pas facile. Mais j'avais un sens du devoir, alors il fallait. Alors j'ai eu tous les noms, je m'appliquais à les lire pour les écorcher. Eh bien, ça n'avait rien changé dans ma vie à cette époque-là. En tout cas, je retrouve cette livre-là, cette Bible-là, et tout un tas de livres autour de la Bible. C'est une période, mais Dieu fait grâce. Après ma conversion, j'ai vu qu'il y avait tout un tas de livres, il y avait à boire et à manger, mais le Seigneur, il fait comme il veut. La conversion à Jésus-Christ. La lumière vient peu à peu dans ma vie, mais je ne le sais pas à ce moment-là. Et en fait, la lumière vient parce que je lis la parole de Dieu. Et souvent, quand je témoigne, je dis, mes problèmes se sont empirés à ce moment-là. Ma situation empire et sur le plan familial, professionnel et personnel, les occasions de débauche et de fuite se multiplient par la situation professionnelle privilégiée. En 2003, toute la vie familiale s'effondre, le couple se sépare, j'ai tout perdu. Dans ces moments de désespoir, mon médecin me parle de Jésus et de la grâce et m'invite chez ses voisins. J'y vais et 3 semaines après, au pied de mon lit, je m'effondre en lisant le verset de Matthieu 6, verset 10, « Que ta volonté soit faite ». Le Seigneur me montre toute ma vie en plusieurs dizaines de tableaux de mes actes, de mes paroles et de mes pensées, portant sur plusieurs décennies de ma vie. Ce verset de Paul, je le vis, il m'est dur de regimber contre les aiguillons. La meilleure image qui me vient, c'est un diaporama qui défile. Frères et sœurs, je veux témoigner que tout est enregistré de nos vies. Je ne sais pas où, mais tout est enregistré. Parce que ce diaporama, il était d'une netteté qui ne pouvait pas permettre de douter. Le psaume 50, à partir du verset 16, dit ceci, « Et Dieu dit aux méchants, quoi donc ? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. » Ça me concernait, j'étais quelqu'un de très religieux. Je connaissais des choses de la Bible et puis des choses religieuses et je n'étais pas le dernier à assonner ces choses et à faire la morale. Toi qui hais les avis, tu crois plus intelligent que les autres, et qui jettes mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Ça vous paraît peut-être sévère, vous croyez que je suis sévère avec moi ? Quand le Seigneur montre les choses, j'étais dans une vie professionnelle, enfin, qui était mi-professionnelle, mi-politique finalement, parce qu'à partir d'un certain niveau de responsabilité, on fait beaucoup plus de politique que de technique. Et vous savez, le mensonge, on s'y habitue, quoi. Ça devient presque une seconde nature. Hein. J'y reviendrai tout à l'heure, c'est pour ça que ce verset me touche beaucoup. Vous avez mangé le fruit du mensonge. On l'a tellement bien mangé qu'on l'a digéré. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Donc si vous voulez, il y avait à la fois cette chose-là, dans ce diaporama, il m'était dur de regimber contre les aiguillons. Tout ce que je voyais défiler, c'était la vérité. Plus vrai que vrai. Et tandis que tout cela défilait, il y avait cette présence en même temps. Ça, c'est le mystère, ça, c'est le miracle. Cette présence comme une main qui m'indiquait, oui, c'est bien toi qui as fait, qui a dit cela, qui a pensé cela. tout cela avec ta famille, avec tes collègues, avec ta femme, avec tes enfants. Mais j'ai payé pour cela et je t'aime. À l'instant, l'angoisse et l'inquiétude qui pesaient sur moi depuis ma tendre enfance, l'impureté qui était sur ma vie depuis tant d'années, ont disparu à l'instant et sa paix est venue. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, ou plus exactement, j'ai reconnu le péché que tu m'as montré. Je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. En me relevant au pied de mon lit, tout était clair. Je savais que Jésus-Christ était vivant. Je le savais d'une manière que personne n'aurait pu m'ôter cette certitude. Je le savais depuis une heure, mais c'était la chose la plus solide de ma vie. Je savais qu'il était mort pour moi, oui, pour moi, et qu'il m'aimait. Tout devenait clair. Je n'avais plus honte, et cela me bouillait en moi. Vous avez ce chant qui dit « je voudrais crier au monde entier ». Oui, et je ne pouvais me taire. J'ai partagé cette bonne nouvelle avec mon médecin et le couple chrétien chez qui nous nous réunissions. C'était fin avril 2003. Le 8 juin 2003, j'étais baptisé par immersion dans une baignoire chez ce couple. J'avais entre-temps annulé ma participation au spectacle de Johnny Hallyday, sur lequel je m'étais inscrit pour aller avec des amis. Ce qu'il y a, c'est que j'ai quand même dû m'expliquer à ces amis pour leur dire ce qui était arrivé dans ma vie. Je n'avais jamais vu Johnny Hallyday, et je ne sais pas pourquoi, quelques mois avant, je voulais absolument voir Johnny Hallyday. Bon, c'est comme ça. Eh bien, cette soirée-là, ça n'a pas été Johnny, ça a été le baptême. Alléluia. Dans les jours qui ont suivi, le Seigneur m'a montré tout un tas de situations à régler. Des demandes de pardon, la fin de relations plus qu'équivoques, des contacts pour réparer des injustices commises, des régularisations par rapport à du travail au noir datant parfois de plusieurs années. Ici, il y avait un artisan avec qui j'avais construit la première maison. Il avait fait toute la plomberie, au black, comme on dit. Et vraiment, le Seigneur me montrait qu'il fallait que je... C'était quelqu'un que j'appréciais. Mais ça faisait 25 ans. Il avait vieilli et je l'ai appelé. Et c'est lui qui a eu peur. Il m'a dit, mais non, il y a prescription, mais je voudrais qu'on règle ces affaires-là quand même, quoi. Bon, il n'a jamais voulu. Mais ça a été l'occasion de témoigner. Philippiens 2, verset 12, nous dit ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en nous, en vous, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Je voudrais à travers ça vous dire, ne négligeons pas ces choses. Quand on vient au Seigneur, on demande pardon, mais il nous est demandé, un, d'abandonner nos transgressions, et il y a la notion de la réparation, pour ce qui peut l'être. Si quelqu'un a tué un autre homme, il ne pourra pas réparer. Cela en tout cas. Mais je crois que c'est une dimension importante. Je témoigne que je vois l'importance que ça a eu dans ma vie, mais je suis aussi dans la vie d'autres, d'être clair là-dessus. Dieu est un Dieu saint. Quand la lumière vient, obéissons promptement. On était dans l'ignorance, mais quand la lumière vient, ne bargouinons pas. Obéissons. Souvent, il facilite notre travail. Il regarde notre cœur, et si notre cœur est obéissant, il facilitera nos mises en ordre. Je vais vous raconter une petite histoire. Tandis que j'étais au petit séminaire, on avait fait un petit camp de travail avec des petits séminaristes, c'était avec des garçons. Et j'avais connu une situation d'impureté avec un garçon. Et ces choses-là travaillaient. Je dis ça parce que je sais que dans des vies, il y a ces choses-là. Et qui travaillent, qui peuvent travailler des décennies et pourrir les vies. Et à ma conversion, donc j'avais 10 ans, donc 65-2003, vous faites le compte, 38 ans après, je me souvenais du nom de ce garçon. J'ai cherché dans la mer, j'ai fait 2-3 coups de téléphone, j'ai fini par le trouver. Il était, c'était un chirurgien. Je suis allé le voir. Avant, j'avais vérifié que c'était bien lui, qu'il avait bien été au petit séminaire, qu'il avait bien fait un camp à Marcillac-Vallon, en Aveyron. Et je suis allé le voir, et je lui ai dit, je lui ai demandé pardon. Et nous avons eu un échange véritable sur ces choses. Je crois que c'est important. Ça vous paraît peut-être dérisoire. Je crois que c'est important. Je ne dis pas cela pour copier. Le Seigneur montre à chacun. Il y a des choses, il faut grâce, il y a des choses, il veut que ce soit réglé. Après, je vais passer à une partie que j'appellerai l'équipement. 18 mois après ma conversion, tandis que j'exerçais mes responsabilités professionnelles, j'apprends au téléphone que je suis démis de mes fonctions et une proposition m'est faite d'être dans un service auprès de la direction du groupe à Paris. Après échange, je refuse l'offre parce que j'avais l'espoir que ma vie familiale pourrait se reconstituer et je pensais que ma place était sur Rennes. Donc l'affaire a été vite réglée, je suis donc licencié. Dieu est souverain. Au moment où j'ai eu ce coup de fil, une paix est descendue pour moi. Je peux vous dire que je peux témoigner de ce que c'est que l'huile du Seigneur qui vient se répandre sur nous. Une paix est venue sur moi. Je souligne que je n'ai pas cherché à quitter mon travail. Au contraire, au milieu des tribulations personnelles qui duraient, je m'attachais à bien faire mon travail sans toutefois me joindre aux extras qui accompagnaient ce type de poste. Lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez maintenant. Car la fin de ces choses, c'est la mort. En effet, avant ma conversion, j'étais en société, notamment en vie professionnelle, un gai luron, comme on dit, racontant des histoires que je ne vais pas préciser, qui faisaient rire un temps, et mes collègues furent surpris après ma conversion de ne plus m'entendre. Il a fallu là aussi prendre position clairement. Vous savez, il se passe des choses dans les vies professionnelles curieuses. Il y avait une équipe d'une dizaine de personnes, des responsables régionaux, des directeurs régionaux, ça s'appelait à l'époque, qui proposaient quand même d'aller se taper un joint ensemble ou des choses comme ça, et puis le reste, quoi. Il m'a fallu prendre position clairement. Dieu est précis. Je veux souligner ça, je veux que ce soit des encouragements. Ne craignons pas. Si Dieu s'est révélé à nos cœurs, mettons les choses en ordre. Si ça n'a pas été fait au moment de la conversion, il est toujours temps. Dieu est précis. Il m'a arraché au train de ce monde, car je n'aurais pas eu la force, et je n'y songeais même pas. J'étais dans ma vie professionnelle, j'avais à travailler quand même. Et humainement, être licencié d'un groupe d'assurance puissant, comme celui où j'exerçais après 35 ans de vie professionnelle, sans faute, aux yeux du monde, c'était inconcevable. Dieu a pourvu à mes besoins et plus. Petite anecdote, j'ai appris mon licenciement le 16 décembre 2004. J'ai quitté mon travail le 8 février 2005 et mon licenciement a pris effet le 31 août 2005. Entre le 8 février 2005 et le 31 août 2005, il y avait le 14 mai 2005, qui était le jour de mon anniversaire de mes 50 ans. Alors, il faut savoir, mais je ne savais pas, parce que moi, vous savez, franchement, le licenciement et le chômage, c'est une chose qui n'avait jamais effleuré ma vie. Eh bien, en fait, après 50 ans, il y a tout un tas de choses qui sont différentes, notamment sur les indemnités de licenciement. Dieu sait toutes choses. Il connaît la législation sociale mieux que nous. Et si on le laisse faire, vraiment, faisons-lui confiance. Je peux vous dire que je n'avais jamais imaginé me retrouver un jour au chômage. Mais Dieu a pourvu. Avec le recul, j'ai compris qu'il m'a confié des biens pour en être son gestionnaire aussi. Donc le 2 février 2005, ça c'est un autre aspect de la vie, je prends contact avec une ancienne missionnaire qui avec son mari, avait été puissamment utilisée au Burkina Faso. Ce contact est établi à l'occasion de la lecture d'un livre qui s'appelle « La maison des autres », un livre témoignage sur une œuvre qui a été accomplie par ce couple au retour de mission en France, accueil d'hommes et de femmes dans des situations difficiles. Mon cœur est touché parce que ce n'est pas un livre qui balaye un tableau idyllique des affaires. C'est un livre qui dit la vérité, qui dit les encouragements, les réussites, mais aussi les échecs. Et ça, ça me touche. Et j'avais, je sais pas, cette manie, moi j'aime bien rencontrer les gens. Alors, j'avais déjà rencontré des auteurs de livres que j'avais lus, et là j'ai dit, je vais rencontrer cette personne. Donc je l'appelle un matin à 8h, je me présente, je tombe sur une femme qui était âgée, je savais, mais qui avait du tempérament apparemment, à entendre la voix, c'était pas mollasson. Hein. Elle m'interpelle et me demande quelle église je fréquente. Je lui dis, ben, je ne fréquente pas d'église, c'est un petit groupe. Et puis elle me demande, êtes-vous baptisé du Saint-Esprit ? Cette phrase m'interpelle parce que je l'avais lue dans les actes. Je lui réponds que je n'en sais rien. J'ai bien lu cela dans la Bible, mais je ne sais pas de ce dont il s'agit. Je lui réponds par contre que j'aime lire la parole de Dieu et que j'aime le Seigneur. Ça, c'est jailli de mon cœur. Nous convenons finalement de se rencontrer. J'irai à Mulhouse, où elle habite. Nous prenons rendez-vous pour le 9 février 2005. C'était la première date libre sur son agenda. Une dame de 80 ans, mais bien occupée. Et figurez-vous que le 9 février, c'était le lendemain de la fin de mon activité professionnelle. Dieu est maître des agendas aussi. Et donc je prépare mon voyage vers Mulhouse. Et dans cette semaine-là, entre le 2 et le 9, le Seigneur me montre une situation à régler, là aussi, vous allez dire, c'est pas glorieux, une situation à régler avec un neveu, avec qui des choses s'étaient passées bien des années auparavant aussi. Le Seigneur me demande de régler ça. Il habite à Bourg-en-Bresse. Donc je partirai donc en passant par Bourg-en-Bresse. Arrivé chez la sœur, je lui témoigne de mon parcours, comme je le fais là. Puis nous dînons simplement. Après dîner, elle me propose de prier un instant. C'est alors que le Seigneur me visite puissamment et me remplit de joie, de liberté au débordement. Je le loue et je le prie en esprit et en langue pendant des heures. Je ne savais pas trop ce qui m'arrivait. En fait, je fais l'expérience du baptême du Saint-Esprit, une nouvelle étape à laquelle je ne m'attendais pas. Je n'ai pas recherché cette expérience, mais après l'avoir vécue, avoir relu les actes, j'ai réalisé que c'était une expérience offerte à tout croyant, désirant connaître son Sauveur et qui marche simplement, obéissant et acceptant la souveraineté de Dieu. Et je me suis dit après que c'est simple obéissant. Vous savez, des fois, je veux là aussi encourager, et surtout pas... des fois, vous savez, en mécanique, des fois, un petit grain de sable, ça bloque les choses. Un petit grain de sable, il suffit de pas grand-chose. Les choses de l'esprit, il y a des choses précises. C'est le Seigneur, il est bon, mais il s'est donné des lois qu'il respecte. Donc, Seigneur, il y a des petites choses. Des fois, il nous demande une obéissance sur un point qui nous paraît minuscule, mais il peut déclencher de grandes choses. Je voudrais lire Acte 18, verset 23 à 19, verset 7. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, écoutez bien ça, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, un couple mature, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces d'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Curieux cette question, hein ? Ils lui répondirent « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, baptême d'eau. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Ce passage m'a été personnellement très utile lorsque tout un tas de théories opposées m'ont été données concernant le baptême du Saint-Esprit. J'étais pas dans une église. Et donc j'avais entendu parler d'aucune doctrine particulière. Et je pense que le Seigneur sait ce qu'il fait, en tout cas pour ce qui m'a concerné. Et ce passage m'a été très utile, parce que j'ai entendu tout et son contraire. J'ai entendu que c'était des choses diaboliques, j'ai entendu que ceci, j'ai entendu que cela. Et je vous dis une chose, frères et sœurs, la parole est précieuse pour bien poser les choses. Et ce passage m'a été extrêmement précieux. Nous avons Apollos, un homme fervent d'esprit, mais qui connaissait que le baptême de Jean. Mais par contre, il connaissait les Écritures. Avec ce qu'il avait, il a servi. Aquilas et Priscille vont l'éclairer plus exactement. On ne sait pas sur quel point, mais il y a des points qui ne devaient pas être très clairs. Ils ont perçu qu'il manquait quelque chose à Apollos. Ils vont lui dire, notez au passage, qu'Apollos a accepté d'être enseigné. Paul, maintenant. Paul, il arrive. Paul, il était un peu visité, lui. Hein. Il arrive, tout de suite, il sent qu'il y a quelque chose, qui manque. Avez-vous été baptisé du Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc, il sait que ces gens sont nés de nouveau. Or, on ne naît pas de nouveau si ce n'est par l'Esprit. Et pourtant, il leur dit, avez-vous reçu l'Esprit quand vous avez cru? Il parle bien un peu d'autre chose. Et il va remettre les choses en ordre, très simplement. Il va les baptiser d'eau, il va repartir, il enseigne par pédagogie, et ils reçoivent simplement les choses. Ce que je retiens aussi, l'un sème, l'autre arrose, et c'est Dieu qui fait croître à travers tout ça, et qui dispose de tout, du temps et des circonstances, et des personnes qu'il va utiliser pour nous. Figurez-vous, frères et sœurs, qu'il peut même utiliser des personnes moins avancées que nous, spirituellement, pour nous conduire à la maturité. Pensons à Ananias avec Paul. Simplicité, obéissance toute simple à la parole, mais chercher de tout son cœur. De tout son cœur. Cette expérience, dans la joie de l'expérience, m'a amené un zèle parfois excessif, je le reconnais, qui a pu être blessant. Un ami me disait, c'est le problème du Karcher, si vous voulez. Karcher, ça décape. Si pour peu qu'il y ait quelques gravillés dedans, quelques impuretés, ça fait mal. Mais bon, le Seigneur s'occupe de ça. À travers cette missionnaire, j'ai connu un pasteur, parce que je n'avais pas d'église, sur Quimper, Jacques Baudéré, je le cite, qui m'a beaucoup aidé, accompagné, que j'ai connu des délivrances et qui a été patient. Il était patient. Et puis cette sœur m'a embarqué en Afrique, au Burkina. Je ne voyais pas bien pourquoi au début. Je vais très vite là. Cette sœur m'a aussi embarqué à la pastorale à Mulhouse. Je crois que c'est là la première fois que j'ai rencontré Yves. Je ne développe pas tout ça parce que je ne veux pas être trop long. Mais ce que je veux souligner, c'est que soyons attentifs aux connexions que Dieu fait. Les connexions que Dieu fait, c'est lui qui les fait. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on n'y est pas pour grand-chose. Ça veut dire qu'on n'y est pas pour grand-chose. Et il fait des connexions au sein de son corps. Il sait qui il a besoin d'utiliser pour celui-là et qui il a besoin d'utiliser pour celui-là. Il fait comme il veut. Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. En 2005 également, le couple chez qui j'allais connaissait un jeune chrétien, plutôt un chrétien jeune, parce qu'il était jeune mais déjà mature. Et il me l'envoie, il voulait créer une entreprise, je le rencontre, on prie, on sent vraiment quelque chose. Dieu veut quelque chose à travers nous. On comprend des choses, on croit comprendre des choses, on démarre, on démarre une entreprise. C'était un plus jeune que moi, mais plus mature en Christ. Il avait 30 ans, j'en avais 50. Mais le plus mature en Christ, c'était lui. Et le Seigneur va s'en servir. Nous démarrons une entreprise. L'ancien 4 sup se met à la tronçonneuse et à tout ça. Mais j'aimais bien les travaux, hein, ça vous avez remarqué. Et puis je fais les devis, enfin bref, L'entreprise se lance, on la lance dans mon garage, et puis à la maison, et puis les choses se développent, on trouve des locaux, enfin bon, je passe. Ce que je veux retenir là, c'est que Dieu a utilisé ce frère pour me dire des choses que j'avais un peu du mal à entendre. Et là, comprenons que quand on vient au Seigneur, on peut y être venu de tout son cœur. Il y a des poutres qui restent. Il y a des poutres qui restent. Il y a des structures qui sont là. Il faut reconnaître que les frères et sœurs voient beaucoup mieux que nous ces affaires-là. Pour autant, ce n'est pas très agréable. Nous avons bien souvent mouillé la moquette de nos larmes. Et j'ai appris ce que voulait dire ce verset, « Il m'est bon d'être humilié pour connaître tes statuts. » Dans ce temps aussi, avec un feu, un zèle, nous avons démarré un petit groupe à Saint-Grégoire, avec mon fils qui s'était converti, nous évangélisions, avec lui avec la guitare, et puis moi je chantais, puis on prêchait à ceux qui passaient, au milieu des jardins publics à Saint-Grégoire. Puis après il y a eu un certain nombre d'épreuves, une épreuve qui durait, puisque la question du couple n'était pas réglée. Et c'est en 2010 que j'ai rejoint l'église de la Bonne Nouvelle, où j'ai reçu bien des consolations, et où j'ai appris aussi la vie dans l'église et la vie d'église. Je voudrais revenir sur la question du divorce. C'est quelque chose qui a été très douloureux pour moi. Mais je voudrais revenir avec par rapport à David. David s'est repenti de ses péchés avec Bathsheba. Pourtant, son premier enfant mourra, puis il aura Salomon. L'exemple de Daniel aussi et de ses compagnons dans la fournaise. Vous savez que Daniel et ses compagnons à la fournaise ont dit à Nebuchadnezzar, nous n'adorerons pas ta statue. Et Dieu nous délivrera. Puis il ajoute, si nous mourrons, ça veut dire si Dieu ne nous délivre pas, de toute façon, nous n'adorerons pas ta statue. Donc la question n'est pas de savoir si on a une grande victoire, si les choses se passent comme on espérait. La question, c'est d'être fidèle. J'insiste là-dessus. Parce que souvent, on considère que on a eu le succès, on a remporté, les choses se sont passées comme on l'aurait souhaité de notre cœur. On ne comprend pas tout. David s'était vraiment repenti de ce qu'il avait fait avec Bathsheba. Néanmoins, son premier enfant mourra. Il suppliera le Seigneur. Mais quand le Seigneur aura tranché, il acceptera. Après ce divorce, j'ai demandé à Dieu de me soutenir pour le servir seul, car je n'envisageais pas d'autres possibilités. Franchement, je me voyais comme Pierre qui avait juré fidélité et qui avait trahi. Je vous le dis, frères et sœurs, c'est ainsi. Mais c'est ainsi aussi que là, j'ai pu être libéré de cela, reconnaissant les choses comme Dieu les voit, c'est-à-dire une trahison. Pierre a trahi. Jésus ne l'a pas abandonné. J'ai trahi, il ne m'a pas abandonné. Dieu, il est plus grand que notre cœur. Fin décembre 2011, il m'a donné une vision, la seule vision que j'ai eue de ma vie, avec une nappe et le visage d'une sœur de l'Église, et des sentiments sont nés avec une pureté que je n'avais jamais connue. C'est un frère qui... Je n'avais pas compris. Je connaissais quand même un petit peu la parole, mais je n'avais pas compris cette vision. Et un frère qui m'a dit, mais si, c'est la vision, la nappe, c'est la vision. Ce que Dieu déclare pur ne le déclare pas impur. Les choses religieuses, tu les abandonnes. Ce que Dieu déclare pur, ne le déclare pas impur. Moi qui ai eu une vie pleine d'impureté, de choses dont je rougissais maintenant, il me demandait d'épouser une femme dont j'apprendrai plus tard qu'elle n'avait pas connu d'homme. À travers ce témoignage, je m'arrête là. Ce que je veux dire, c'est un encouragement. Nous traversons des choses que parfois nous ne comprenons pas. Il y a des choses que nous comprenons bien, il y a une chose qu'on comprend bien. C'est que la voie du péché mène à la mort. Pas tout de suite, ça peut demander du temps, mais ça mène à la mort. On mène des choses sur les chemins de la mort. Mais lorsque Jésus-Christ intervient, j'aurais souligné quelques points. Vendredi soir, la soirée de louange, les trois conducteurs qui se sont enchaînés avaient choisi chacun un thème. J'ai noté qu'il y avait trois thèmes. La souveraineté de Dieu, la purification et le combat de la foi. Retenez ça, la souveraineté de Dieu. la purification, le combat de la foi. Premier point que je voudrais partager avec vous, Dieu est bon. Lui seul est bon, mais il existe des lois spirituelles qui ne changent pas et que Dieu ne changera pas. L'idolâtrie conduit à l'impureté. Le monde le sait. Il parle de sexe, pouvoir, argent. C'est ça que ça veut dire. Ces choses sont liées. L'idolâtrie dans le domaine spirituel est un adultère spirituel vis-à-vis du Dieu unique, qui est un Dieu d'alliance. Mais l'idolâtrie spirituelle conduit aussi, frères et sœurs, à l'adultère tout court et à l'impureté sexuelle. Les cultes à la reine du ciel ou à la sirène des eaux, c'est la même divinité, ouvrent la porte à des esprits de prostitution qui amènent bien des tourments dans les vies affectives. La parole est très claire là-dessus. Pas développée, mais c'est vraiment important. Ce que Dieu demande, et c'est possible, c'est de renoncer à ces choses. De s'humilier, de s'être détourné du Dieu unique. Et il œuvre. L'idéalisme et toutes les passions sont des idolâtries qui conduisent à la mort. L'idéalisme, ça j'ai du mal à le comprendre, l'idéalisme, c'est notre idée à la place de celle de Dieu. Et toutes les passions sont des idolâtries et conduisent à la mort. Deuxième point, Dieu ne se trompe jamais. Jamais. Ça veut dire que toutes les circonstances qu'il permet sont destinées à nous façonner. Peut-être c'est difficile à entendre quand on traverse des choses, mais frères et sœurs, c'est pour ça que nous ne sommes pas seuls. Un chrétien seul est un chrétien en grand danger parce que les eaux, il aura du mal à les traverser. Mais s'il les traverse accrochés au corps, dont la tête est Christ, il les traversera. Troisième point, nous pouvons être délivrés de ce qui a empoisonné nos vies. Ne croyez pas pour autant que l'accusateur vous laissera tranquille sur le sujet, mais résistez-lui avec une foi ferme. Nous pouvons être délivrés, et si vous avez été délivrés de choses, saisissez, proclamez, si vous avez été délivré, si vous avez abandonné, si vous vous êtes détourné des mauvaises voies, les avez laissé de côté, si vous avez réparé ce que le Seigneur vous avait montré à réparer, si, etc., alors, dites maintenant, c'est terminé. Mais sachez que l'ennemi, lui, continuera. Zacharie 3, verset 11. « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu ? Je suis, vous êtes des tisons arrachés du feu. » Or Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Mais l'ennemi continuera jusqu'au bout. Mais nous aussi. Dernier point, ne pas confondre le pardon accordé par Dieu, le salut accordé, et le fait que des difficultés subsistent. Nous avons mangé du fruit du mensonge. Cela a empoisonné nos vies et a imprimé en nous des caractéristiques du royaume des ténèbres. Nous avons intégré ces choses dans nos vies, dans nos âmes. Ce sont des poutres. Et ça, c'est un autre regard sur, vous savez, l'œil, la paille et la poutre. Les poutres, on est en plein travaux. En ce moment, je vous parle de travaux, parce qu'on a des travaux. Les poutres, ça porte, ça structure. Et je peux vous dire qu'il y en a qui sont costauds, des poutres. Et ces poutres qui sont dans notre œil et rendent notre œil en mauvais état. Seule la puissance de l'esprit de vie en Jésus-Christ peut changer cela. Romains 8. Seule la puissance de l'esprit de vie en Jésus-Christ peut changer cela. À nous d'accepter de laisser agir la main du potier. il le fera. Il le fera. Ne vous échinez pas à des choses religieuses, à faire des efforts. Je peux vous attester, j'espère, je vous ai convaincu, qu'on s'embourbe à ça. Mais la puissance de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, elle est libérée pour tous ceux qui ont cru, qui se sont repentis de leurs péchés. Et c'est la seule puissance qui peut engloutir la puissance du péché et de la mort. C'est la seule. N'en cherchez pas d'autre. C'est la seule. Mais il le fera. Amen. Seigneur, nous avons chanté vendredi une armée qui se lève. Une armée. Seigneur, oui, nous le proclamons. Nous sommes ton armée, Père, en prononçant cela. Il n'y a point d'orgueil dans nos cœurs, mais nous nous plaçons sous ton autorité. Seigneur, viens encore ce matin, par la puissance de ton esprit, par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, qui a été répandu, parce que tu es mort à la croix, parce que tu as été élevé, et parce que le Père te l'a demandé. Merci, Seigneur, d'avoir libéré cette puissance qui nous convainc de pécher, mais nous libère des puissances qui étaient installées en nous. C'est toi qui l'as fait, Seigneur. Seigneur, tu as commencé cette œuvre en chacun de nous. Alors, Seigneur, oui, purifie ton Église. Purifie ton Église, Seigneur. Et viens convaincre ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, qu'il est encore temps. Je te loue, je te bénis, Père. Amen.